Nous allons poursuivre ce soir l'étude de la première épître de Paul aux Corinthiens. Nous sommes rendus au chapitre 14. Chapitre 14 qui va donc essentiellement traiter de toutes les règles pratiques pour le bon exercice des dons dans l'Église. Ça fait suite au chapitre 12. Il y avait comme une interruption où Paul a voulu parler de l'amour davantage pour que ce soit ça qui anime les gens dans tout ce que nous faisons. Il ne peut pas y avoir un bon usage des dons si on n'a pas d'amour. Donc, il poursuit sur ce qu'il fait. Il expliquait au chapitre 12, et donc dans le chapitre 14, il parle des règles pratiques. Hein. Il a bien montré l'importance de l'amour qui doit être le fil conducteur dans l'exercice des dons. Maintenant, il va dire concrètement et pratiquement comment il faut exercer. Ça subdivise ce chapitre en deux grandes parties. Le verset 1er jusqu'au verset 25, où il nous parle des objectifs et de l'utilité des dons. Il va parler essentiellement de deux dons, le don des langues et le don des prophéties. Et ensuite, la dernière partie du verset 26 jusqu'à la fin, au verset 40, il nous parle des règles, donc, de l'exercice de ces dons dans un culte public. Dans un culte public. C'est ça qui posait problème, justement, dans l'église de Corinthe à ce moment-là. Ayons toujours à l'esprit que l'épître aux Corinthiens, c'est une réponse aux questions qui se posaient à Corinthe par rapport à ce que les gens vivaient à cette époque-là. Et on va lire par bloc de versets, du verset 1er jusqu'au verset 5 d'abord. Recherchez l'amour, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez donc tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Il utilise deux verbes au début, rechercher l'amour. Il faut le rechercher avec toute notre force parce que c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Il faut le rechercher, alors que les dons spirituels, il faut y aspirer, il faut souhaiter les avoir. Voyez-vous déjà la différence qu'il fait entre les deux? L'amour est capital. Sans l'amour, on ne peut rien faire de bon. Donc, il faut le rechercher en premier et en priorité. Et alors que pour les dons, il faut y aspirer. C'est une faculté que Dieu nous donne, qui est désirable, qui nous permet donc de faire avancer l'œuvre de Dieu. Et on va se poser la question, pourquoi il dit surtout, aspirer surtout au don de la prophétie? Il explique. Il explique qu'il faut rechercher d'abord le don de la prophétie en premier, parce qu'il faut rechercher les dons qui édifient l'Église. La préoccupation de Paul, c'est l'Église et non l'individu. Le parler en langue, la personne s'édifie elle-même, tandis que le don de prophétie, ça édifie l'Église. Ça édifie l'Église. Ça fait déjà toute une explication. Les langues s'adressent non pas aux hommes, on l'a dit, mais les langues s'adressent à Dieu. C'est l'individu qui parle à Dieu pour son édification personnelle. Tu parles à Dieu. Tu n'as même pas besoin que personne autour de toi te comprenne ce que tu dis. Tu parles des mystères, tu parles des choses qui concernent le plan de Dieu que Dieu n'a peut-être pas encore décidé de révéler ouvertement aux gens. Tu parles des mystères. Personne ne te comprend. Et ce que tu dis, ce sont des mystères pour les auditeurs. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, verset 2, mais à Dieu. C'est en esprit qu'il dit des mystères, des choses qui sont cachées jusqu'ici à l'intelligence humaine. Par contre, celui qui prophétise, lui, il parle aux hommes. Il s'adresse aux hommes qui sont présents dans l'assemblée, qui sont présents dans l'église. Et il parle de la part de Dieu, évidemment, pour les exhorter, pour les consoler, pour les encourager, pour les fortifier, parce qu'on sait que le monde en a besoin. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Il explique pourquoi il souhaite que les gens aspirent surtout à celui de la prophétie, sans évidemment discréditer les autres dons. Il dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Pour que personne ne l'accuse, qui dit, bon, ok, il n'y a plus de place pour parler en langue dans l'église. Les gens sont vite faits. Quand il dit, je souhaite que vous recherchiez plus le don de prophétie, c'est comme s'il minimise. Il dit, je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Que personne n'aille donc m'accuser pour dire que je suis contre les langues dans l'église. Verset 6, on va aller jusqu'au verset 12. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne voulais et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, ben que ce soit alors pour l'édification de l'Église que vous recherchiez à en posséder abondamment. Amen. Je vais m'arrêter au verset 12. Paul commence par donner son exemple. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je, moi-même qui viens vous parler, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, des langues que vous ne comprenez pas? D'aucune utilité. Et si je ne vous parlais pas par révélation, si je ne vous parlais pas par connaissance, par des choses que vous allez comprendre, si je ne vous parlais pas par prophétie, quelque chose qui vient pour vous encourager, pour vous consoler, pour vous fortifier, pour vous rendre le plus fort dans le travail et la mission que le Seigneur vous appelle à faire, si je ne le faisais pas, je ne parlais pas par doctrine, par des enseignements solides de base pour vous faire grandir, de quelle utilité vous serais-je? Il prend son propre exemple. Je peux moi-même venir vous parler en langue, mais de quelle utilité vous serais-je? Que Paul veut montrer ici. Donc lui-même, il voit que son séjour serait inutile au milieu des Corinthiens si l'Assemblée n'avait pas le bénéfice de tout ce que lui disait, s'il ne pouvait pas tirer le son de ce qu'il disait. Amen. Donc Dieu révèle sa vérité aux hommes quand les langues sont interprétées. Amen. Il dit, à moins que ce dernier, au verset 5 qu'on avait vu, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Le don de langue va être utile à l'Église à moins que quelqu'un n'interprète et que cela, à ce moment-là, serve à l'édification. Donc, Dieu révèle sa vérité aux hommes lorsque les langues vont être interprétées. Amen. Amen. C'est important. Aucune place, donc, pour des mystères. On va voir ça dans une assemblée où quelqu'un vient et parle pendant 10 minutes en langue, point final. Ça s'arrête là, il n'y a personne. On va tous se regarder, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un don d'interprétation de langue ou que la même personne ait le don, parce que la personne peut avoir les deux. Elle prophétise ou elle parle en langue et puis elle interprète. Mais si ce n'est pas le cas et s'il n'y a personne pour l'interpréter, écoutez, je ne dirais pas que c'est de la barbarie. Ça va être plus vrai encore pour des gens nouveaux qui sont dans l'église, qui sont de passage, qui ne connaissent même pas ce que c'est le parler en langue. Ils disent, mais dans quelle église je suis allé? Donc, aucune place pour des mystères qui n'ont pas de signification. Versets 7 et 8, là, il prend des exemples concrets d'instruments qui servent dans l'Église. Les instruments qui servent dans l'Église passent aussi un message. La flûte, la harpe et le type de son qui sortent des instruments passent un message. Il va y avoir une musique qui va être une musique de joie, il va y avoir une musique qui lorsque les gens sont en tristesse. Ça peut exprimer le son que sortent ces instruments, la harpe ou la flûte. Ils rendent des sons distincts. Comment serait-il si tous sortaient le même type de son? Comment on saura que c'est tel instrument qui joue, c'est tel autre? Quel est le message que ça passe? Est-ce qu'il n'est pas possible de distinguer le son des instruments utilisés? Si ce n'est pas possible, il est difficile automatiquement de savoir si le type de son qui sort, c'est un type de son qui nous pousse à louer le Seigneur ou un type de son qui nous pousse à pleurer de repentance devant le Seigneur, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes dans un moment de joie. Il faut que la musique exprime, vous amène à exprimer la joie que vous puissiez ressentir, que c'est quelque chose qui vous pousse à la joie. Quelque chose qui à un moment de tristesse, ça va être un autre type de musique. Il faut que les sons soient adaptés pour que les gens puissent comprendre, interpréter les sons qu'il y a. S'il s'agit d'une trompette, Ben, les trompettes, on en a tellement parlé ces temps-ci. Mais si la trompette fait un bruit confus, qu'on ne distingue pas que c'est une trompette, alors que la trompette sonne pour avertir les gens de se repentir ou de faire quelque chose, mais écoute, ou alors qu'on dit, la trompette sonne pour dire, c'est le temps d'aller en guerre, comme il dit ici. Il dit, mais comment reconnaître-t-on? Non. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Quand la trompette sonne, on doit pouvoir discerner le message que la trompette sonne. La même chose, les langues qui sortent, les gens doivent pouvoir savoir ce que ça veut dire pour eux. Amen. Donc, comment saura-t-on? Il faut aller se préparer au combat, la trompette. C'est des exemples qu'il donne avec ce que les gens vivent concrètement dans la vie de tous les jours pour essayer d'illustrer le message qu'il veut passer au sujet de l'importance de l'interprétation des langues. Comme des instruments peuvent jouer toutes sortes de sons, mais si c'est un son unique, vous ne saurez pas distinguer qui fait quoi, qui dit quoi. C'est la trompette qui joue, même chose que la flûte. Vous ne savez plus à quel moment c'est un message de se lever pour aller au combat ou à un moment où il faut adorer le Seigneur ou des choses comme ça. Donc il faut pouvoir distinguer. Alors c'est la même chose quand les paroles, la voix d'un homme sort, c'est pour communiquer une information. Quand on ouvre la bouche dans l'église, c'est pour communiquer une information. Je parle à Dieu, je lui demande quelque chose. Je parle à Dieu, je lui dis quelque chose. Mais quand tu pries seul en langue, c'est pour ton édification personnelle. Tu le fais de façon que c'est toi et ton Dieu. Et c'est quand c'est dans une assemblée. C'est pour ça que quand c'est dans une assemblée, tu vas éviter de le faire à haute voix pour que tout le monde entende. Tout le monde attend peut-être pour que tu interprètes. Si tu n'interprètes pas, ça n'édifie personne. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, c'est pour communiquer une information. Même si c'est un bruit sans signification, donc le but pour lequel la parole est sortie va faire en sorte que le message que l'on voulait passer ne va pas être atteint. Donc, c'est un son qui sort sans atteindre son but. Ça devient, comme je disais tout à l'heure, une barbarie. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Ça va être comme dans le vide. Ça va être comme des messages qui n'atteignent pas du tout le but. Amen. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle. Et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder en abondance. Donc, comme vous aspirez au don spirituel, il faut que ce soit pour l'édification de l'Église et non pour la gloire et non pour l'exaltation. Le problème de Corinthe, c'était ça. Celui qui parlait le plus en langue, le plus fort, etc., c'est celui qui se disait « Oh, moi j'ai des dons que d'autres n'ont pas ». Mais ça n'édifie personne, c'est de la barbarie. Ça ne fait rien du tout pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. On va lire du verset 13 au verset 19. Il va être beaucoup plus précis vers la fin, là. Donc, de 13 à 19. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation, comme je disais, d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Alors, il donne comme solution, il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs, un visiteur ou quelqu'un qui est nouveau dans la foi, des simples auditeurs, comment répondra-t-il « Amen » Si quand tu fais une prière ou tu rends grâce, il faut que ceux qui sont avec toi disent « Amen » à ta prière. Mais comment peut-il dire « Amen » à quelque chose qu'il ne comprend pas? Comment dira-t-il « Amen » à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. » Là, il conclut un peu ce qu'il vient de faire la présentation en mettant quelques règles en place. Que celui qui prie en langue doit savoir qu'il est responsable non seulement du fait qu'il doit exercer son don, mais il doit savoir qu'il est responsable pour que les autres dans l'Église soient édifiés. C'est la première chose à laquelle on va dire qu'il arrive. Donc, tu pries en langue, tu dois savoir que tu es responsable de l'effet que cela va avoir aussi autour de toi. Oui, tu pries en langue parce que ce n'est pas un don qui doit dormir, c'est un don que tu dois utiliser. Oui, tu es responsable de l'usage de ce don, parce qu'il y a des dons que Dieu peut te retirer aussi si tu ne t'en sers pas. Mais aussi, en même temps que tu es responsable d'exercer le don, tu dois savoir que tu es responsable pour que les autres autour de toi soient édifiés. Voilà pourquoi il dit, il faut prier, au verset 13, prier pour que vous ayez aussi le don d'interpréter, que ce soit vous-même, que ce soit qu'il y ait quelqu'un. On devrait prier dans l'assemblée qu'il y ait des personnes qui ont le don d'interpréter les langues. Je veux dire quelque chose en langue, prier en langue, rendre une action de grâce en langue. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui soit en mesure d'interpréter. Voilà ce que Paul dit. Donc, il commence à établir des règles dans le culte. Quand tu es à la maison, quand tu es dans l'auto, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux prier en langue pendant 6 heures de route que tu fais. Tu ne déranges personne. Tu es en train de parler, toi, avec ton Dieu. Mais imagine-toi que tu es dans l'auto, tu pries pendant 6 heures en langue, et que la personne qui est à côté de toi ne comprend rien à ce que tu dis. Je ne sais pas ce qu'elle va vivre pendant ce temps. Amen. Celui qui prie en langue est responsable pour que l'autre qui l'écoute soit édifié. Donc, il faut donc prier pour avoir aussi des dons d'interprétation. Pendant qu'on prie en langue, dit-il au verset 14, si je prie en langue, mon esprit est en prière. C'est mon esprit qui est en prière. Je suis en communion certainement avec le trône de Dieu. Mais pendant ce temps, mon intelligence est stérile. Mon intelligence n'a rien à communiquer aux autres autour de moi. Et les autres, ils entendent que je prie en langue, mais humainement parlant, il n'y a personne qui comprend ce que tu dis. Donc, tu n'as rien à communiquer. Ton intelligence est stérile. Tu ne communiques absolument rien. Et au verset 15 à 17, il dit, ce n'est pas parce que je dis ça qu'il faut exclure. Que faire donc? Il ne faut pas exclure ces dons. Il dit, non, je prierai. Malgré tout ça, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Il ne faut pas exclure ses dons au milieu de l'assemblée. Il faut continuer à prier en esprit. Il faut continuer à chanter par l'esprit. Il faut continuer à prier en langue, etc. dans l'assemblée, mais en tenant compte de ses règles de conduite quand on est dans un culte public. C'est important que cela soit fait. Il faut savoir de la responsabilité d'interpréter pour le simple auditeur afin que lui aussi puisse dire « Amen » à notre prière. Et ça regroupe cette notion d'inclusion. L'Église doit être l'ensemble de ceux qui sont là, qui tirent profit du temps que nous passons dans le culte. Et si nous sommes tous partis à prier en langue, et qu'on ignore les simples auditeurs qui viennent, c'est une façon de faire en sorte qu'ils se sentent exclus de l'Assemblée. Alors nous ne savons pas ce qu'ils disent, on ne peut pas continuer avec des gens comme ça. Il faut pour toi veiller l'inclusion des gens qui viennent et veiller à l'édification donc, de chaque personne qui est dans la réunion. C'est vrai que tu pries en langue, tu chantes en langue, par l'esprit, tu rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Et Paul dit ceci à partir du verset 18, je rends grâce à Dieu de ce que je parle. Il montre que lui-même ne rejette pas du tout ce don. Au contraire, il dit, je remercie le Seigneur qui me l'a donné. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça, c'est un message fort aujourd'hui parce qu'on entend beaucoup de choses dans les milieux chrétiens qui disent, ah non, parler en langue, ça n'a plus de place. C'est sûr que c'est l'encadrement peut-être qui manque, mais ça a sa place. Amen. Tu parles à Dieu, tu t'édifies. Dieu n'a jamais dit qu'on ne doit pas s'édifier. Tu t'édifies toi-même. Mais quand il s'agit de le faire dans un culte public, ça doit se faire avec une certaine attention pour que les gens, voilà, c'est ça, ne puissent pas se sentir un peu exclus de ce qui se passe dans l'assemblée. Donc, c'est un message fort pour ceux qui pensent rejeter ce don. Il y en a qui disent que ce n'est plus pour le temps présent. Donc, parler en langue, c'était à l'époque des apôtres. C'est fini maintenant, c'est fini. Non, ce n'est pas vrai. Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. Et je rends grâce à Dieu d'ailleurs pour cela. Donc, il confirme que ça a sa place. Et Paul sait, en disant ça aussi, que vous savez, si on commence à trop surveiller quelque chose, l'action de l'esprit, on surveille, on commence trop à encadrer, ça peut refroidir des gens. C'est pour ça qu'il dit, moi je parle en langue plus que vous tous, pour vous dire que même si je vous dis de faire attention, ce n'est pas que je ne veux pas que ça ait place. Si on commence à trop encadrer la chose, comme dans certaines églises, il n'y a pas question de prier en langue dans le culte, mais tu peux prier à ta place, tu peux prier en langue, tu ne déranges personne nécessairement, prier en langue. Mais quand c'est encadré à ce point, ça peut refroidir les ardeurs. Il y a des gens qui diront, non, à ce moment-là, dans cette église, on ne veut pas que je prie en langue, je vais pas écraser, mais comment on dit ça? Le fait de surveiller trop l'emploi d'un don dans une église, ben, il y a danger que ce don cesse d'être utilisé. Il faut encadrer la chose, mais il ne faut pas empêcher aux gens de s'épanouir non plus. Il ne faut pas empêcher les gens de s'épanouir. Il faut plutôt mettre des règles en place. Alors, verset 19, il dit, « Mais dans l'Église, alors qu'il dit que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, il précise, j'aime mieux. » Donc, il y a une préférence. Je préfère dans l'Église. Je préfère. Il remet ce don à sa place lorsqu'il s'agit de l'exercer dans l'Église. Je préfère que ça serve plus à l'édification personnelle, plus dans le cadre d'un culte personnel, plutôt que dans les assemblées publiques. Parce que c'est toujours difficile d'encadrer ça. C'est quelqu'un qui est parti, il faut que des gens aillent, des gens de l'accueil, j'ai déjà vu ça, des gens de l'accueil qui vont taper, ou le prendre et le sortir pour l'amener ailleurs. Je sais pas. Il préfère, dans ce cas-là, il dit, mais qu'on se serve de cela dans un culte personnel, dans un temps d'édification personnelle, plutôt que dans les assemblées publiques. Et par contre, lui, il se sert des deux, à la fois des langues, il se sert à la fois de la prophétie, parce qu'il parle de la part du Seigneur. Il se sert des deux pour montrer que les deux ont leur place dans la vie des enfants de Dieu. Mais il recommande plutôt la prophétie lorsqu'il s'agit des cultes publics. Il dit ceci, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que d'avoir 10 000 paroles en langue. » C'est la recommandation qu'il fait, donc plutôt dans l'assemblée, le moins possible, mais sauf s'il s'agit d'un temps personnel à toi. Tu peux être à ta place pendant le culte, comme le dimanche, tu pries en langue, tu ne déranges pas du tout l'assemblée, tout seul, ça peut être dans ton cœur, ça peut être à voix basse là où tu es, tu ne déranges absolument personne. C'est quand tu élèves la voix et que tout le monde doit arrêter, et puis tu parles en langue 5 minutes, et puis c'est fini, et puis il n'y a plus rien qui se passe. On se pose, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a aucun don d'interprétation, la personne n'interprète pas du tout. C'est un problème dans une assemblée et Paul veut encadrer ça parce que c'était ça qui était à la base au niveau de l'église de Corinthe à ce moment-là. Donc frères, à partir du verset 20, on va lire jusqu'au verset 25. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Il parle aux Corinthiens. C'est la première fois dans ce chapitre là qu'il parle de frères, parce que là, il va aborder quelque chose pour un peu les secouer. Frères, parce que c'était des gens qui avaient faibli dans leurs sentiments, dans leur dignité chrétienne. Remarquez, c'est chaque fois qu'il l'utilise, on avait déjà vu dans d'autres chapitres ou livres, chaque fois qu'il vient parler de frères, ça veut dire qu'il va piquer quelque part. Là. Il va dire quelque chose pour les ramener. Il dit, mais là, vous aviez faibli dans votre foi, dans votre attachement à Dieu, mais vous êtes encore des frères. Je vous considère comme encore des frères. Frères! Ils avaient faibli et il les invite donc à s'engager dans une réflexion sérieuse, d'où la comparaison entre un enfant et une personne adulte. Alors il dit ceci, je me suis tenu bien pour que je l'explique comme il faut. Alors, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la méchanceté, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il dit, ne soyez pas des jugements lorsque il s'agit de votre jugement. Ne soyez pas des enfants lorsqu'il s'agit de votre jugement qui est en jeu. Lorsque vous faites appel à votre intelligence, ne soyez pas des enfants, ne vous comportez pas comme des enfants. Est-ce que c'est clair? Parce que ne soyez pas comme des enfants, ne vous comportez pas comme... Soyez comme des personnes adultes, des personnes intelligentes. Mais par contre, il dit comme des enfants, lorsqu'il s'agit de la méchanceté, soyez comme des enfants. Pourquoi? Parce qu'un enfant peut être méchant. Parce qu'un enfant peut mal agir. Parce qu'un enfant peut prendre des risques non calculés. Vous pouvez prendre des risques, vous pouvez faire toutes ces choses et vous comporter comme un enfant parce que vous n'avez pas conscience du mal. Des fois, comportez-vous comme des enfants lorsque vous n'avez pas conscience du mal, lorsque vous n'êtes pas informé des risques et des conséquences des choses. Là, il accepte. Mais lorsqu'il s'agit d'exercer votre jugement, ne soyez pas comme des enfants. En d'autres termes, on peut comprendre qu'un enfant soit méchant, mais pas un adulte qui n'a pas de jugement. On peut le comprendre qu'un enfant, parce que l'enfant, c'est un enfant, il ne connaît pas les risques, il ne connaît pas les conséquences de ses actes. On peut comprendre ça, qu'un enfant soit méchant, hein, se comporte méchamment. Mais on ne comprendra pas que quelqu'un qui est adulte se comporte comme un enfant, c'est-à-dire sans jugement. En substance, c'est ça que je vois. Mais soyez comme des hommes faits. Soyez comme des hommes qui comprennent, surtout eux, les Corinthiens, qui se considéraient, on l'a vu au début de l'épître, qui se considéraient comme étant spirituels, qui se considéraient comme étant supérieurs aux autres à cause de leur connaissance et comme de leur, à cause de leur sagesse. Soyez comme des hommes faits, comme des hommes intelligents, comme des hommes matures, qui sont sages. Soyez comme sages. Amen. Or, en leur disant ça, ils les considèrent comme étant des adultes. Je considère comme étant des adultes, donc soyez, exercez votre jugement, soyez comme des hommes qui sont sages. Vraiment, comportez-vous comme cela. Dans quel domaine? En matière d'exercice du don des langues. Vous pouvez vous battre sur ce sujet là-bas, mais grandissez, soyez matures, grandissez. C'est pour ça qu'il donne des éléments. Amen. Donc, il cite ici, dans le passage que nous avons, il cite un texte de Ésaïe 28, il le cite, Ésaïe 28, versets 11 à 12, qui dit: il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Il cite ce passage pour montrer comment Dieu avait essayé de ramener son peuple à lui. Il avait essayé de ramener son peuple rebelle. Le peuple de Dieu a souvent été rebelle. Mais Dieu a essayé de le ramener d'abord par la bouche des prophètes. Il a parlé par Ésaïe, il a parlé par d'autres prophètes. Il a essayé de le faire, mais le peuple n'a pas compris le langage simple des prophètes. C'est un langage de Dieu qui voulait que ce peuple lui revienne. Le peuple n'a pas compris ça. Alors Dieu, ce qu'il a fait, il a utilisé des hommes d'une autre langue, des envahisseurs, les Assyriens ici, qui étaient un peuple cruel. C'est un autre type de langage que Dieu utilise, évidemment. Il permet à ce peuple d'envahir Israël, évidemment, et pour pouvoir parler à ce moment-là au cœur de son peuple. En temps normal, il parle par le prophète, le peuple est rebelle, le peuple ne veut pas l'écouter. Mais il dit, je vais utiliser une autre langue, je vais utiliser des hommes d'une autre langue. C'est les Assyriens qui viennent à envahir le peuple, et le peuple se sent menacé. À ce moment-là, il dit, il espère encore que le peuple va l'écouter, mais même avec ce langage, dit-il, le peuple n'a même pas écouté, ne m'a même pas écouté, dit le Seigneur. Par conséquent, voilà pourquoi il dit, et il fait le lien justement entre les langues utilisées ici, qui sont un signe, dit-il, pour les rebelles, pour les gens rebelles comme son peuple. Les langues sont un signe pour les rebelles, pour les gens qui sont fermés à l'évangile, les non-croyants. C'est un signe de quoi? C'est un signe, un, que Dieu ferme les portes, ou se ferme plutôt à son peuple. Dieu est mécontent des langues qu'il a utilisé, les langues étrangères qu'il a utilisées, l'invasion des Assyriens qu'il a utilisées, qui parlaient une autre langue, c'est un signe que Dieu n'était pas content de l'attitude de son peuple. Ce signe aussi est un signe que Dieu s'ouvre à d'autres peuples. Rappelez-vous à l'époque de la Pentecôte, quand les gens ont parlé en langue, les gens de toutes les autres cultures ont entendu parler leur langue étrangère. C'était un message pour dire, écoutez, je suis venu, je me suis fait homme, j'ai souffert à la croix pour vous. Jésus a utilisé ce... Je suis venu, j'ai souffert, j'ai été crucifié. Vous m'avez crucifié à la croix. Vous n'avez pas compris le message de salut que j'ai apporté. Donc, je m'ouvre maintenant à des peuples étrangers. D'où le parler en langue à la Pentecôte pour que les autres peuples puissent comprendre le message de Dieu. Le message de Dieu à ce moment-là, et c'était une ouverture de Dieu qu'il faisait désormais à d'autres peuples, les païens. C'est pour ça qu'il dit que les langues sont un signe pour les non-croyants. C'est un signe de l'ouverture de Dieu, dans ce cas de Pentecôte, pour les non-croyants. Et c'est un signe de fermeture où Dieu n'est pas content de l'attitude d'un peuple. Il fait parler donc, le but était de rendre Israël jaloux. Nous l'avons étudié, si vous vous rappelez quand vous étiez ici, dans Romains chapitre 11. Nous l'avons étudié qu'il a ouvert l'évangile à d'autres peuples pour essayer de toucher le cœur de son peuple et le rendre jaloux. Lui qu'il avait choisi comme seul peuple, mais il n'a pas voulu l'écouter, il a utilisé les langues pour s'ouvrir à d'autres. C'est un message aux non-croyants que l'Église, l'Évangile s'ouvre aux païens. Amen. Paul encourage donc les Corinthiens à aspirer davantage et à se tourner vers la prophétie. Par conséquent, au verset 22, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Le message que Dieu leur passe, qu'ils s'ouvrent à leur action, qu'ils s'ouvrent vers eux, qu'ils s'ouvrent vers d'autres peuples, qu'ils s'ouvrent vers des non-croyants. Et la prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre des simples auditeurs de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, Paul encourage les Corinthiens à aspirer davantage, à se tourner davantage vers la prophétie, un don qui profite à la fois aux croyants et à la fois aux non-croyants. Voici quelque chose qui édifie l'Église plutôt que le parler en langue. Voici quelque chose qui édifie l'Église, les non-croyants qu'ils appellent de simples auditeurs. Donc tous comprennent la prophétie parce que c'est dans un langage accessible à tous. Amen. Et le verset 23 donc il dit, si donc dans une assemblée de l'Église, tous parlent en langue, c'est pas que tous parlent en langue, c'est mauvais, mais si tous parlent en langue en même temps. Amen. Si le don de langue est utilisé de manière chaotique, et tous se mettent à parler en même temps, comme c'était le cas à Corinthe à ce moment-là, ça va déboucher sur un désordre, ça va déboucher sur le discrédit de l'Évangile, ça va déboucher sur le déshonneur même de l'Évangile. C'est le chaos à ce moment-là, quand tout le monde parle en langue en même temps, sans qu'il y ait même interprétation, évidemment, c'est le chaos. Et c'est pour ça qu'il dit, s'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, un simple auditeur, c'est quelqu'un qui vient à l'église, qui se cherche, il arrive à l'église et trouve que tout le monde est en train de parler en langue. Il dit, mais écoute, il va se dire que vous êtes des fous. C'est chaotique dans ce milieu là-bas, il ne comprendra rien de ce qui se passe. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Si tous prophétisent, c'est la même chose que parler en langue. Si tous prophétisent, mais pas que tous prophétisent en même temps. Sinon, la personne, même si c'est dans un langage qu'il comprend, si tout le monde parle en même temps, on ne saura jamais ce que l'un ou l'autre a dit. Donc il faut que les gens parlent, il l'explique plus loin. Et si quelqu'un, un non-croyant ou un simple auditeur entre, lui il va écouter, il dit, ah, il va être convaincu par ce que vous dites. Il va se sentir être jugé par tous, il va se sentir interpellé par ce que vous dites. Et souvent, c'est ce qui arrive pour les nouveaux chrétiens. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Quand nous sommes venus au Seigneur la première fois et qu'on allait à l'église, on avait tendance à dire à la personne qui nous a amenés, « Tu es allé raconter toute ma vie au pasteur ou à la personne qui prêche. » En tout cas, c'est ce que je pensais. Que tu es tout allé raconter tout. Et moi aussi, j'ai amené d'autres personnes au Seigneur et des personnes disent, « Mais là, c'est pas correct, tu es allé tout raconter. » Non. Prophétiser, c'est enseigner. Tu enseignes la parole de Dieu. La parole de Dieu parle de ce que nous vivons tous les jours et la manière dont nous nous comportons chaque jour. Si donc on adresse des choses quand un nouveau arrive à l'église, il va dire, mais comment ça? Tout ce qu'on dit, c'est ma vie qu'on est en train de détaler là-bas. Mais oui, parce que ça touche les aspects de la vie des gens. Et ils vont dire, mais écoute, ici il dit c'est bon parce que les secrets de son cœur sont dévoilés. Il vient croyant qu'il va passer inaperçu, mais Dieu permet qu'il sorte une parole qui va aller dire exactement, ou une prophétie qui va aller dire exactement ce que cette personne vit, son secret va dévoiler, de sorte que, tombant sur sa face, il va réaliser, il dit, mais je ne suis pas à un endroit ordinaire, je suis à un endroit où Dieu est réellement au milieu de ces gens, et ça va le pousser à adorer Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a entendu ce qu'on disait, il comprend ce qu'on dit, plutôt que de parler en langue. Mais ce qui est bon, c'est que même quand on parle en langue, il ne faut pas le faire tous en même temps. Quand on prophétise, il ne faut pas le faire tous en même temps. Amen. Il faut que ça édifie les gens qui sont là. Alors, c'est ça. Si tous prophétisent, bien, le non-croyant sera convaincu, évidemment. Il sera éclairé, les secrets de son cœur seront dévoilés. La preuve que Dieu connaît les pensées de l'homme. Ici, prophétiser, ce n'est pas nécessairement annoncer des choses pas ou passées ou qui vont arriver. Prophétiser, c'est enseigner, c'est annoncer l'évangile, c'est exhorter, c'est encourager. De venir avec une parole d'encouragement et la personne vient de passer par un down. Il était complètement découragé. Il dit, mais heureusement que j'étais là ce matin. Ce que j'ai entendu, ça me redonne la force de continuer le chemin. C'est ça le but de la prophétie. Donc, le non-croyant va se sentir jugé, va se sentir interpellé et il adorera Dieu et le reconnaîtra au milieu, que Dieu est au milieu de nous. Amen. Voici donc la première partie de ce chapitre. Première partie, comme nous avons vu, où il parle de l'objectif et de l'utilité des dons. Il faut que les dons, quand ils soient exercés, ce soit pour l'édification de l'Église. Quand c'est exercé dans le culte public, en privé, vous faites ce que vous voulez. Vous parlez en langue autant que vous voulez, vous vous édifiez vous-même. Mais Paul précise qu'il n'interdit pas que ça se fasse dans une assemblée publique, mais quand c'est encadré et que c'est fait de bonne façon. Amen. On a besoin que ça se fasse dans l'Église, il faut qu'il y ait les dons d'interprétation. Et nous allons voir que toutes ces choses doivent être vérifiées par la suite, évidemment, pour que il ne se passe souvent des choses. Bon, on a entendu des choses dans une Église. Quelqu'un dit qu'il a un don de prophétie, mais ce qu'il a sorti, c'était pour détruire carrément l'Église. Et le lendemain de sa prophétie, l'Église était complètement à terre. Complètement à terre. Alors, ça doit être bien encadré. Amen. Amen. Donc, nous amorçons la deuxième partie. C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant le culte. Quoi faire dans les cultes publics? Nous allons lire le verset 26. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc, il est hors de question pour Paul d'écarter pour rien au monde aucun don dans l'Église. Amen. Il dit, je parle la langue plus que vous tous, donc je ne peux pas l'interdire moi-même. Il dit, mais ils servent, ces dons servent pour la croissance de l'Église. La croissance de l'Église, c'est une croissance à la fois numérique, donc nous devons tenir compte des nouveaux qui sont là, nous devons tenir compte de ceux qui sont encore en train de balbutier, ceux qui sont encore dans leur premier pas de la foi, pour ne pas les perdre. La croissance de l'Église, c'est à la fois une croissance numérique, mais une croissance aussi en maturité. On doit tenir compte des deux. Alors, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut encadrer. Donc, nous devons veiller, sans rien écarter, nous devons veiller à la croissance de l'Église et nous devons veiller à l'édification de tous. Que tous soient édifiés, les nouveaux, les croyants qui sont présents dans l'Assemblée et même des visiteurs. Ils se cherchent encore, quelqu'un l'a invité, mais il ne faut pas qu'ils disent « je suis arrivé dans un milieu de barbares » ou je ne sais pas quoi. Il faut vraiment tenir compte de cela. Et au verset, donc, il dit « il faut continuer à s'édifier. Tout ce que nous faisons là-bas, que tout se fasse pour l'édification. S'édifier par un cantique, par un psaume, par un hymne, par une instruction, par une révélation, par une langue, que tout cela serve à l'édification dans l'Église. Les versets 27 et 28 disent ceci, « En est-il qui parle en langue et que deux ou trois au plus parlent ?» Là, il est concret maintenant, il est concret dans le déroulement du culte, que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Ça, c'est des recommandations pour l'usage des langues. Il est vraiment concret, il dit que deux ou trois au plus. Il ne le dit pas ici, mais j'imagine que il le dit aussi en partie, par rapport avec la durée du culte, parce que sinon c'est sans fin là. Si 50 personnes commencent à parler chacun à son tour, etc., là ça ne finira plus. Je crois qu'il y a cet aspect aussi pour encadrer. On doit tenir compte de toutes les personnes qui viennent à l'église. La première fois il dit, mais on m'a dit que le culte durait de 10h à midi quand on m'a invité, mais j'arrive, ça va jusqu'à 14h. Ça le refroidit, il va partir. C'est une des raisons, c'est que deux ou trois au plus, hein, il dit chacun à son tour. Que ce ne soit pas chaotique. Chacun à son tour, et seulement s'il y a un interprète. Seulement s'il y a un interprète. Il faut prier pour ça. Il y a un interprète. Amen. Et sinon, il faut prier en silence. Évidemment, il faut se taire. Moi, je dis, il dit se taire, il dit, je ne sais pas se taire, c'est vraiment prier. Moi, je dis à voix basse, à ma place, sans élever le ton à voix basse, pour mon édification personnelle. Voici la recommandation qu'il fait. Tout le monde ne se met pas à parler en langue, à tour de rôle, etc. Et pendant le culte public, c'est différent de nos réunions de vendredi, qui sont des réunions de prière, qui sont en général des réunions où nous restons seul à seul entre membres de l'Église. Et donc, c'est différent. Tandis que, il dit au verset 29, 30, il dit « Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. » Et on continue, car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Là, il donne maintenant des recommandations sur comment exercer le don de prophétie dans l'Église. Là aussi, que deux ou trois par. Il y a cet aspect de longueur, mais il y a cet aspect aussi que le programme du culte puisse se dérouler comme cela doit se faire. Que les autres jugent de leur parole, la conformité. Est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est confirmé par la parole de Dieu ce que la personne est en train de dire dans la prophétie. Je vous ai donné un exemple ici. Quelqu'un vient dans l'église et il commence à dire dans cette église, la femme du pasteur est une sorcière. Franchement, la prophétie, c'est supposé être pour encourager. Et c'était une grosse église en Belgique. Grosse église. Le lendemain, fini. L'église était complètement... Tout le monde a eu peur de ça. Est-ce que c'est Dieu vraiment qui a amené ces paroles comme... La prophétie, c'est pour édifier. C'est pas pour aller décourager les gens, c'est pas pour les descendre, c'est pas pour... Non, c'est pour encourager, voilà, pour encourager les gens. Amen. Donc, juger des paroles qui sortent, et si une autre révélation sort, que le premier se taise. Ça peut être une d'une personne qui sent que ce n'est pas tout à fait... C'est pas tout à fait de Dieu ce qui est en train de sortir. Une autre personne se lève et prophétise autre chose. Que la première se taise. La première se taise, Paul le dit. Amen. C'est pour le bon ordre de l'Église. Et il faut donc prophétiser successivement à tour de rôle. À tour de rôle. Pourquoi? Quand il dit au verset 32 que les esprits des prophètes, si vous prophétisez successivement, tous seront instruits. Tout le monde va profiter de ce qui sort de votre bouche. Toute personne va profiter de ces paroles d'encouragement. Et tout le monde va être exhorté. Et les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Parce qu'il y a souvent tendance, on dit, quand on est dans le pentecôtisme, tu dis, ah non, je ne peux pas arrêter, c'est l'esprit qui parle, je ne peux pas arrêter. Non, attendez. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Soumis parce que tu dois te juger toi-même avec discernement. Toi-même d'abord, avant que l'autre te juge, tu dois te juger toi-même avec discernement. Pour se maîtriser aussi soi-même. Il faut être en mesure de se maîtriser, de ne pas perdre le contrôle. C'est « je suis en esprit, ouh, il est parti, il n'y a plus personne qui peut le retenir. » Et quand vous essayez de l'arrêter, toucher à l'épaule, non, on n'arrête pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un esprit de prophétie, selon ce que Paul est en train de dire ici. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Amen. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, amen, mais un Dieu de paix. Le culte dans lequel nous sommes, c'est un culte qui doit refléter absolument le caractère et la nature de Dieu. Il est un Dieu de paix, il est un Dieu de désordre. Il faut qu'il y ait la paix. Il ne faut pas qu'on vienne t'arrêter et que ça devienne une occasion de chicane avec l'autre personne. Dit, toi, tu m'as arrêté pendant que je prophétisais. Non, écoutez, c'est un Dieu de paix. On est soumis à l'esprit des prophètes. Alléluia. Un culte doit refléter la nature et le caractère de Dieu. C'est un Dieu d'ordre, un Dieu de paix, un Dieu d'harmonie. Le culte doit être harmonieux. Amen. Tu es en train de chanter, on peut même t'arrêter pendant que tu es en train de chanter. Parce qu'il est peut-être temps de passer à autre chose. Ne dis pas, j'avais préparé 4 chants, tu m'as fait chanter juste 3, ça devient un problème. Non. Dieu m'avait parlé que je devais amener les 4 chants. Attention. L'esprit des prophètes est soumis. Nous avons un Dieu d'ordre et nous devons veiller à ce que l'ordre règne dans nos cultes. On ne peut pas dire qu'on ne contrôle pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une tendance que nous avons, sinon... Nous laissons la porte ouverte à la confusion dans l'Église. Amen. Verset 33, la deuxième partie. Alors, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Amen. On va en parler maintenant. Et je vais vous donner un point qui vient de régler le problème des langues, il vient de régler le problème de l'Église, en tout cas en donnant des directives, comment se comporter. Et après avoir réglé ce problème, donc il revient sur la question des femmes. Il n'avait pas vraiment fini de parler de ça dans les chapitres 12 et de leur rôle dans les Églises. Je suis allé regarder aussi dans d'autres versions. C'est toujours important de lire dans d'autres versions. J'ai une Bible... Version Darby. Je suis allé regarder dans Darby, j'ai trouvé qu'on ne dit pas que les femmes se taisent dans les assemblées, il dit que vos femmes se taisent dans l'assemblée. Là, ça vient de changer quelque chose, et pourquoi? Ça montre d'abord que Paul s'adresse à l'église de Corinthe, par rapport à une situation qui se passait à ce moment-là. Rien que ça déjà nous dit clairement que tu ne peux pas extrapoler ce passage pour dire « mais ça doit être comme ça partout et jusqu'à aujourd'hui ». Rien que ça déjà. Que vos femmes se taisent. Parce qu'on parle bien de vos femmes, pas les femmes. Parce qu'il y a des femmes mariées, il y a des femmes célibataires. Que vos femmes se taisent. C'est vraiment vos femmes parce qu'on dit « si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison ». Celle qui n'a pas de mari, elle va l'interroger qui ? C'est là que je pense réellement que c'est vos femmes. C'est par rapport à une situation qui se passait dans l'église de Corinthe. Parce qu'il y avait à Corinthe des femmes qui créaient le désordre dans l'église et qui faisaient honte à leur mari. C'était une situation vraiment particulière qui se passait à Corinthe. Qu'est-ce qu'elle faisait ? Ben, il dit qu'il parlait à haute voix et... parlait à haute voix, il posait des questions en pleine réunion, etc., etc., parce que ben, il voulait se faire voir, je ne sais pas. Il dit, mais si vous avez des questions, allez les poser à votre femme à la maison, à votre mari à la maison. Amen. Donc, les gens qui parlaient à haute voix, qui posaient des questions en public. Alors, le passage ici, je vous lisais, si vous avez des Bibles avec commentaires, vous allez vous rendre compte que si vous écoutez, vous lisez les commentateurs. Si vous lisez 3 commentateurs ou 4, vous risquez d'avoir 3 ou 4 positions différentes sur ce sujet. C'est problématique. Alors nous prenons une position qui est celle-ci. C'est que c'était un message qui était adressé à l'église de Corinthe compte tenu des situations qui se passaient à ce moment-là. Amen. Amen. Tellement que les deux versets sont difficiles et posent problème. Il y a des gens qui ont dit que c'est des versets qui ont été ajoutés par les scribes. Ce n'était pas de Paul, c'est des gens qui ont transcrit son texte, qui l'ont ajouté. Il y a des commentateurs qui disent ça, que ça devrait être sorti, et ce n'est pas du tout. C'est des choses qui ont été ajoutées dans ce que Paul voulait. Le contexte, justement, était marqué par la culture. C'était un mélange de culture juive, gréco-romaine. À l'époque où il y avait une domination, c'était ça qui régnait, une domination de l'homme sur la femme. Et vous savez que même les esclaves existaient et qu'on tolérait l'esclave. Paul en parle dans Romains, que les esclaves, etc., dans la parole, il parlait des esclaves en les condamnant. Il disait, mais soyez soumis à vos maîtres, etc. Donc, nous étions aussi dans une époque où il y avait une montée des revendications. C'était le moment où la femme romaine voulait s'émanciper. Et quand tu veux t'émanciper, tu saisis toute occasion, bonne ou pas bonne, pour te faire entendre. Alors, ils venaient dans l'église et ils élevaient la voix pour parler, pour dire que nous avons des droits. C'est l'époque de l'émancipation, on voulait que les gens exercent leurs droits individuels. Alors, malheureusement, il y a quelques femmes qui abusaient de leurs droits. Ce n'est pas parce que quelques femmes ont abusé de leurs droits qu'on va généraliser ça partout dans le monde. Il faut tenir compte du contexte qui était celui de Corinthe à ce moment-là. Si nous regardons dans la parole de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit Paul, il affirme la dignité et la valeur de tout être humain, homme et femme. Ils l'affirment, ils ne font pas de différence entre les deux. Mais ceci étant dit, eux ne voulaient pas et ne pouvaient pas changer de façon radicale. Paul, ni Jésus d'ailleurs, ne pouvaient pas changer de façon radicale ce qu'il y avait comme institution sociale qui était acceptée. Il était socialement accepté qu'un homme bien ait des esclaves. C'était accepté, ils ne pouvaient pas le changer. Mais ce qui a fait que ça change, c'est le temps. Quand l'évangile a commencé à rentrer, quand l'évangile a touché des vies, à ce moment-là, ces choses ont commencé à tomber. La domination de l'homme sur la femme a commencé à tomber. Mais pour ne pas gêner le progrès de l'évangile, ils ne pouvaient pas reprendre cette question en disant « mais à partir de maintenant, nous prêchons que les femmes sont égaux aux hommes. » Wow, là, c'est clair que les églises, les assemblées allaient se vider à ce moment-là. Mais ils ont laissé la parole faire son œuvre tranquillement. Et avec le temps, le monde a été touché. Ils ont compris que mais les deux, c'est des créatures de Dieu. Dieu les aime autant que moi. Il n'y a pas qui est supérieur. Ceci n'enlève en rien, évidemment, l'ordre de la création. Ceci n'enlève en rien l'ordre premier que Dieu dit que l'homme est le chef de la femme. Ça demeure. Ça demeure. Dans l'amour, ça demeure. Ça ne change absolument rien. Si. Donc, ils ne pouvaient pas, évidemment, aller changer ces choses de façon radicale sans affecter négativement la croissance de l'Église. Et la preuve que Paul n'est pas d'accord avec cela, c'est que lui-même avait beaucoup, beaucoup de femmes qui étaient dans... Vous lisez dans Romains chapitre 16, il cite le nom de beaucoup de femmes qui travaillaient avec lui. Donc, ils avaient une place dans ce ministère. Jésus, les gens qui supportaient ce ministère, la plupart, c'était des femmes qui supportaient ce ministère financièrement. Amen. Donc, Mais on sait qu'avec le temps, évidemment, l'évangile a fini par détruire tous ces abus et c'est ça. Alors, donc, les deux versets ne réglementent pas le ministère, l'exercice du ministère par la femme. C'est ce qu'on doit retenir de ces deux versets, qui créent beaucoup de contestations, etc. Mais ce n'est pas des versets qui réglementent. Et le principe d'interprétation de la Bible veut que ce n'est pas parce que ça a été dit à une seule place. Il faut que ce soit confirmé à deux, trois places, éventuellement, avec d'autres textes, que ce soit confirmé. Mais dit à une seule place, ce n'est pas, on ne peut pas partir de là pour réglementer l'exercice du ministère par les femmes dans l'Église. Et c'est vrai, parce que quand vous vous rappelez, quand nous avons étudié le chapitre 11, si on va au chapitre 11, le verset 5, on voit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise dans l'Église, donc Paul le reconnaît. Il n'est pas en train de se contredire ici. Hein. Paul le reconnaît qu'une femme peut prier, une femme peut prophétiser dans l'Église, donc il ne peut pas se contredire. Ça s'adressait au cas de ces femmes qui exagéraient dans ce qu'elles faisaient. Donc les femmes peuvent exercer tous les dons si elles ont des dons particuliers qui peuvent aider l'Église à avancer, qui peuvent aider l'Église à toucher le monde. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc avec l'Évangile, les femmes peuvent exercer les dons que le Seigneur leur a donné. Et ceci, évidemment, n'enlève en rien, justement, comme je dis, l'ordre établi par Dieu. Tu es la femme, tu es soumise à ton mari. Amen. C'est votre vie au couple, mais dans le ministère, ici, au niveau de l'Église, exactement, nous visons la priorité de l'évangélisation. Dieu a donné un don à une femme, ben, il faut qu'il mette ce don au service de l'évangélisation. Et on termine avec le verset 36 jusqu'à la fin. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, ben qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Habitude de Paul, quand il y a des contestations, il défend, il prend encore avec vigueur, il défend son apostolat ici et il pose une question davantage pour choquer. Est-ce que c'est chez vous? Est-ce que c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie? C'est un peu pour choquer les Corinthiens qui voulaient s'opposer à son enseignement. Et donc, il s'est dit que si quelqu'un ne se soumet pas à l'autorité de Paul, à mon autorité en tant que l'apôtre établi pour cette église, ben, il l'ignore. Mais c'est un ignorant, il ne connaît rien du tout et ne doit pas être reconnu comme un leader à ce moment-là au milieu du peuple de Dieu. Amen. Et les deux versets des derniers, c'est tout simplement un résumé, quasiment de tout le chapitre 14. Il dit « Ainsi donc », et il termine comme il a commencé. Si nous regardons, il a commencé à rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie, et il termine en disant « Mais aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre ». Il faut qu'il y ait équilibre, il faut que ça se passe dans l'ordre, dans l'usage de ces dons. Aspirez à la prophétie et n'empêchez pas, évidemment, le parler en langue au sein de l'Assemblée. Pour autant que ça se fasse avec ordre, avec bienséance. Amen. Amen. Seigneur, bénisse